CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Dans le mag du vendredi, on récapitule les actualités de la semaine.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là.
Le récap du lundi.
Bonjour Karine.
Bonjour à tous et bonjour David.
Karine Justo, nutritionniste, diététicienne. Aujourd'hui, on va parler télé à la radio. C'est possible?
Non, c'est possible.
C'est vrai. Bon, de pub.
Alors, des pubs, en tous les cas, des programmes, mais que
de
l'on voit...
De sensibilisation.
Non, vous savez, si vous regardez la télé, donc forcément vos programmes sont coupés par les publicités, vous n'avez pas pu rater les publicités pour ces plats tout prêts qu'on vous sert directement à la maison et qui vous permettent de perdre du poids. Alors, je voulais en parler un petit peu parce que c'est vrai qu'on les voit beaucoup passer en boucle et surtout au printemps. Ça va être la période où tous les régimes vont sortir. Voilà, hein, quand je dis régime, c'est pas très bon hein, dans mon langage à moi. Et donc, voilà, il y a ces publicités pour ces repas qu'on se fait livrer à la maison. Et je suis sûre qu'il y a plein de vos auditeurs qui ne peuvent pas s'empêcher quelque part d'être un petit peu tentés par ça. Parce que le concept, si vous voulez, c'est que ce sont des plats cuisinés, artisanalement ou industriellement, sur lesquels le nombre de calories et l'équilibre alimentaire est calculé et on vous les livre à la maison. Donc vous n'avez à vous occuper de rien du tout, du petit déjeuner au dîner.
Dingue.
Et ça, c'est par cure. Hein, c'est-à-dire qu'on ne commande pas pour deux jours, on commande une semaine, un mois, etc.
Donc on reçoit un gros colis lyophilisé et puis on met ça dans un coin et puis
lyophilisé ou pas lyophilisé, ça peut être sous vide ou ça peut être en conserve. Non, je pense que c'est plutôt sous vide, hein, d'ailleurs, leur technique. En congelé, ça coûterait bien trop cher par rapport aux frais de livraison, mais c'est plutôt du sous vide. Donc, est-ce que ça marche, vous allez me dire?
Oui.
Bon. Ça marche comme un régime un peu restrictif marche.
Ouais.
Voilà, parce que ça va être... Alors après, il y a plusieurs marques, hein, bien sûr, de ces concepts-là. Mais globalement, ça va être 1200, 1300, jusqu'à 1500 calories par jour. Mais ça, c'est pas beaucoup, d'accord? Donc, pour certaines personnes et pour la majorité, on va tomber dans des régimes qui sont assez restrictifs. Donc, si vous faites la même chose tout seul... Ça marchera tout pareil.
Bon, il y a les histoires de calories, tout ça, mais tout de même, ça nous empêche de penser par nous-mêmes notre repas et de conscientiser notre repas. C'est quand même plus gênant, moi, je trouve.
C'est ça, exactement. Et pour moi, c'est ce qui me gêne le plus, parce que pendant ce temps-là, il n'y a pas d'éducation à la nutrition.
Votre rendez-vous bien-être vous est présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.
Delphine Henneke, naturopathe au magasin, au bio-espace géré par Ingrid et Valérie. Delphine Henneke, dompteuse de l'ornithorynque fougueux de Saint-Pétersbourg. À cette occasion, d'ailleurs, tu as terrassé Toto l'escargot rigolo. Tu t'en veux encore aujourd'hui, il était sur ton chemin. Et paf, Toto l'escargot rigolo. Et tu te livres dans un ouvrage témoignage intitulé « On fait pas d'omelette sans casser des œufs ».
Effrayant, effrayant, la semaine commence bien.
Quelle drôle de vie, quelle drôle. Tu peux nous en parler? C'est poignant ton témoignage. Toto l'escargot rigolo, franchement, il avait rien à faire là.
Mais je parlerai tout ça dans la future émission de Michel Vivoux. J'en parlerai. Je me livrerai à ce sujet.
Tous les lundis en deuxième partie d'édition, Delphine Henneke nous rabote les oreilles, nous chiffonne les oreilles. De quoi donc cette semaine?
Ouais, je vous fais suer, quoi, en fait.
Non, pas du tout.
Aujourd'hui, c'est le printemps. Pas oublier, le printemps est là. C'est l'heure de quoi?
Du gros nettoyage.
C'est l'heure du gros nettoyage de printemps, donc de la revitalisation de l'organisme. Donc oui, il n'y a pas que les armoires et autres qu'on va épousseter. On va aussi se nettoyer l'intérieur.
Tu nous disais la semaine dernière, sève de boulot, elle est là, elle est fraîche. Allez, bonne main, sève de boulot, elle est là, elle est fraîche.
Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est ressemblé. Bon, c'est vrai. Donc, nos cellules, elles sont comme nous. Elles respirent, elles se nourrissent, elles produisent de l'énergie et donc des...
Toxines.
Des déchets, oui, des déchets. Toxines, tout à fait. Donc ces déchets, il va falloir que le corps les élimine. Donc il sait faire, les cellules, elles s'auto-nettoient, il n'y a pas de problème, elles ont un beau système pour ça. Mais parfois, on arrive à saturation.
On peut plus.
C'est-à-dire que ça s'accumule, et puis les émonctoires, nos émonctoires, c'est-à-dire nos éboueurs, nos excréteurs, nos éliminateurs du corps, ils ont trop de travail, et puis les toxines vont rester. Et les toxiques aussi, il y en a d'ailleurs. Les toxiques, c'est ce qui vient de l'extérieur, les polluants extérieurs vont rester, et il va y avoir un encrassement. Donc, l'organisme est intelligent, il va pas les laisser se promener partout, il va les neutraliser, il va neutraliser en particulier tous les acides produits. Par exemple, la digestion des protéines, voilà, on va produire de l'acide urique, il va neutraliser ça, et puis il va stocker. Parce que s'il n'arrive pas à l'éjecter, il va stocker. Donc, il va les stocker un peu partout dans le corps, en particulier dans les tissus où ça crée moins, donc dans les graisses, voilà, dans le gras, dans les tissus conjonctifs en particulier, le cuir chevelu. C'est pour ça que l'amoncellement de déchets peut faire tomber les cheveux aussi.
Toutes les chroniques de Delphine sur le cfmradio.fr, rubrique Bien-être au bio, nature et vie.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM.
Dans les sales quartiers de misère, ce sont de petites lueurs qui luisent. Quelque chose de faiblard, de discret. Petite lanterne déquinquée. Sur Paris endormi, une grande lumière grimpe sur la tour. Une lumière toute crue. Citroën, Citroën. C'est le nom d'un petit homme. Un petit homme avec des chiffres dans la tête. Un petit homme avec un sale regard derrière son lorgnon. Un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même. Bénéfice net. Millions, millions. Une chanson avec des chiffres qui tombent en rond. 500 voitures, 600 voitures par jour. Trottinette, caravane, expédition. Auto-chenille, camion, bénéfice net. Millions, millions. Citron, citron. Même en rêve, il entend son nom. 500, 600, 700 voitures. 800 auto-camions, 800 tanks par jour. 2000 corbillards par jour. Ça roule. Il sourit, il continue en chanson. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout des ouvriers, lui. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on n'entend pas crever. Citroën n'écoute pas. Citroën n'entend pas. Il est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers. Pourtant au casino, il entend bien la voix du croupier. 1 million, monsieur Citroën, 1 million. S'il gagne, c'est tant mieux, c'est gagné. S'il perd, ce n'est pas lui qui perd. Ce sont ses ouvriers. Ce sont ses ouvriers. C'est toujours ceux qui fabriquent qui, en fin de compte, sont fabriqués. Et le voilà qui se promène à Deauville. Le voilà à Cannes qui sort du casino. Voilà Nice qui fait le beau sur la promenade des Anglais. Petit veston clair, beau temps aujourd'hui. Voilà qui se promène, qui prend l'air. À Paris aussi, il prend l'air. Il prend l'air des ouvriers. Il leur prend l'air, le temps, la vie. Quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et des acides, il lui refuse une bouteille de lait. Une bouteille de lait ? Qu'est-ce que ça peut lui foutre ? Il n'est pas laitier, il est Citroën. Il a son nom sur la tour. Il a des colonels sous ses ordres, des généraux, gardes chaumes, espions. Des journalistes mangent dans sa main. Le préfet de police rampe sur son paillasson. Citron ? Citron ? Millions, millions. Et si le chiffre d'affaires vient à baisser, que malgré tout le bénéfice ne diminue pas, il suffit d'augmenter la cadence et de baisser le salaire des ouvriers. Baisser les salaires. Mais ce qu'on a trop longtemps tondu en caniche, cela garde encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, oui, pour attaquer, pour faire la grève. La grève. La grève. Vive la grève.
CFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
Ne vous inquiétez pas, ça repart.
Avec le récapitulatif du MAG de ce mardi.
Les haut-parleurs.
Les haut-parleurs.
Les haut-parleurs.
Ça
Salut,
salut
Alex.
Ça va?
Ouais. Bon, bah déjà,
salut
merci.
Salut l'équipe de CSM. Salut les copains du haut-parleur. Bah oui, merci de prendre l'appel pour parler du samedi 24 mars. Ça doit être pour ça que vous m'appelez.
Et non, c'était parce que j'avais une lessive à faire chez toi.
Non, mais il paraît que t'es un peu spécialiste là pour.
Ouais, donc en fait, on t'appelle parce que il y a différents projets qui se passent au parleur samedi, et puis il paraît que t'es un petit peu ton nez dans tous ces projets. Alors, alors voilà, on venait un petit peu vers toi. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de VHS? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas si souvent que ça. Et puis, c'est quand même un chouette projet.
Alors, le VHS, c'est le Villefranche Hackerspace. Bon, qui n'a de space que le nom et peut-être nous à l'intérieur, parce qu'on n'a pas vraiment d'espace hein, dédié. Mais l'idée, c'est de la bidouille autour de l'informatique, en gros. Que ce soit licence libre... logiciel libre, mais aussi vraiment de la bidouille, et c'est le cas le samedi 24 mars, justement. Et on a déjà animé des sessions au parleur, et notamment, on avait fait des install parties de Linux hein, ouais. sur les ordi des copains. Voilà, on avait fait des ateliers au Café Bricole pour essayer de réparer des choses. On avait réussi à réparer quelques petites choses, des câbles, des micros, des choses comme ça. Mmh. Voilà, donc c'est ça, le VHS. Et c'est surtout mon collègue Pedro, l'homme au chapeau, qui...
Il y a la grosse barbe.
Ça, lui, voilà, voilà. Donc, pour les Villefranchois et les habitués des haut-parleurs, vous voyez tout à fait qui c'est. Pour les autres, c'est l'occasion de venir le rencontrer le samedi 24 mars. Mm.
Super. Et est-ce qu'il y a une volonté de refaire un rendez-vous régulier du VHS, ou c'est plutôt sur demande, ou comment ça se passe cette année?
Eh ben, un peu des deux, en fait. Figure-toi que, du coup... il y avait cette demande-là de, parce que le samedi 24 mars, on va appeler ça un atelier recyclage d'ordi, parce qu'on va ouvrir un peu les ordis et voir ce qu'ils ont dans le ventre, voir un peu les éléments qu'il y a dans un ordinateur pour en retaper des meilleurs. Et en fait, ça, c'était une demande, et donc on a dit, bah oui, ok, allons-y. D'où cet événement, mais on aimerait bien avoir un rendez-vous régulier. Après, ce qui nous manque, c'est le temps, malheureusement.
Ah oui.
Axel Kahn, qui est connu et mondialement connu en tant que généticien. C'est un médecin de formation généticien qui intervient dans différents organismes pour répondre aussi à des questions d'éthique. On sait bien tout ce que la génétique peut poser comme problème d'éthique. Donc... voilà, la notoriété d'Axel Kahn, elle est dans ce domaine-là. Ce qui nous a intéressé, et la conférence qu'il va donner ce soir, ne s'appuie pas du tout sur le côté scientifique, sur les travaux scientifiques d'Axel Kahn, mais sur son témoignage, comme vous le disiez, et son expérience de marcheur. Il a effectivement traversé deux fois la France en diagonale, et il a surtout écrit... à partir de cette double expérience de marche, il a écrit pour analyser, pour faire partager d'abord cette expérience, et puis pour analyser, mettre au clair tout ce que la marche a pu apporter dans sa connaissance, il dit, de la France. Il parle d'ailleurs, il intitule le sous-titre du premier livre qu'il a écrit là-dessus, Pensées en chemin, Ma France, des Ardennes au Pays Basque. Et il montre que son intention, c'était aussi d'aller au contact, à la découverte des paysages de la France et au contact des Français pour comprendre ce pays dont on dit parfois qu'il va mal. Eh bien, aller au plus près des gens, c'est aussi voir tout ce qui va bien. Donc, ça, c'était un des objectifs. Le deuxième objectif, évidemment, c'est de se dire qu'en étant tout seul, à pied, dans des paysages qui sont parfois agréables, d'autres fois hostiles, eh bien, on se retourne souvent vers soi, sur soi. Et donc, il montre comment la marche est une démarche d'introspection en même temps que d'ouverture sur les autres.
Coq à l'âne.
On est déjà mercredi dans le récapitulatif de la semaine.
Bonjour à tous, c'est Christophe de la Recyclerie. L'objet de la semaine, c'est de l'électroménager, une machine à laver en parfait état de marche, une machine à laver de classe A, tous les programmes marchent, et essorage 1000 tours minute, un objet que je vous invite à découvrir à la Recyclerie. A bientôt, bonne journée, et à la semaine prochaine, comme vous voudrez.
C'était le Recyclomètre, chronique hebdomadaire de la recyclerie du Rouergue, zone des Gravasses.
Ah, les Insoumis, on est passé à côté, Guy.
Ah, mais je l'ai dit tout à l'heure un peu, mais oui. Les Insoumis, oui, on a souhaité le programmer. Hein, on aime bien les films de Gilles Perret, en particulier, on avait beaucoup porté le film La Sociale, son film précédent, sur la sécurité sociale. Donc là, pour se faire une autre idée, peut-être, de ce qu'est Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, donc le film L'Insoumis. Alors, ça va pas jusqu'après la campagne, malheureusement, peut-être, mais je crois que ça s'arrête à peu près le soir du résultat. Mais c'est quand même la découverte d'un côté moins connu, d'un homme qui est un brillant orateur, comme tout le monde sait, et qui marque quand même la politique française, finalement.
Que des films à voir à la salle de cinéma de Rieux-Pérou. Il en reste un que vous avez pointé avant que nous disparaissions.
Il y aurait eu l'Italien aussi, Il Figlio Manuel. Mais non, on ne peut pas parler de tout. Non, avant que nous disparissions, parce que c'est un peu maintenant comme chaque année en France, il y a des films de Kyoshi Kurosawa. Celui-là, c'est celui qui est sorti l'an dernier et qui était dans les festivals, je pense aussi à Cannes, dans certaines sélections. Il a depuis présenté un autre film à Berlin qu'on dit encore meilleur, mais il m'intéresse beaucoup, a priori, moi, de découvrir avant que nous disparissions. Chaque fois, il part de quelque chose qui pourrait être policier, quand même, dans la trame, même là, puisqu'il y a quand même la conjonction d'événements particuliers qui se passent dans une ville, en particulier une disparition, donc une enquête sur une famille brutalement assassinée. Et donc, après, un certain nombre de phénomènes qui échappent à la réalité habituelle, quoi, si on peut dire, mais qui vont amener le film vers une dimension fantastique, science-fiction fantastique. Mais il avait quand même déjà fait ça plusieurs fois un petit peu. Il y avait des éléments dans les films de Kurosawa, même dans Cure, qui allaient vers la science-fiction. Mais là, plus nettement. Mmh. Mais en même temps, c'est un univers, c'est une telle capacité de réalisation, une telle, je sais pas moi, ces choix de cadre, je crois, qui sont impressionnants, la manière dont il filme la ville, dont il parle de la ville et du Japon. Et il parle quand même tout le temps du Japon actuel, des familles, des couples, et ça c'est intéressant.
Film de science-fiction, oui. Avant que nous disparaissions, projeté le mercredi 11 avril en version originale à 21h au cinéma Rencontre à la campagne, direction Rieux-Pérou.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM.
J'étais à la cool, tranquille, ça se passe, shorté d'un rad à la ramasse, le type a surgi dans la place sur un scooter façon Mad Max. Puis il s'est approché de moi, qu'on m'a le regard, je le sentais pas. T'as le trois quarts, ma caille, c'est pour l'iscaille. Moi je me les gèle sur mon booster, avec ça je serai un vrai rappeur. Alors ma gueule tu la ramènes, je vais t'apprendre à jouer à Tekken. Fais-moi ton cuir, je suis trop vénère. Moi je lui ai dit, lâche l'affaire. Il m'a mis un look kick, j'ai esquivé, sourire, t'as enchaîné, retourné, je lui ai filé mon cuir. J'étais à la cool, tranquille, ça se passe, sortait d'un rad, bouffé un grec, le type a surgi sur le boulevard. Dans un coupé, il était pas net, puis il s'est approché de moi, combat de regard, je le sentais pas. Wesh, wesh, gosse beau, t'as sorti le fut à la cigale, c'est trop de la balle. Regarde comme il craint mon baggy, avec le tien j'serai un vrai MC. Viens faire un tour dans ma merco, je vais t'apprendre ce que c'est qu'un braco. Tu sais j'suis croque de ton streetwear, moi j'lui ai dit, lâche l'affaire. Il m'a fait une balayette, j'lui ai mis un frontal. T'as enchaîné coup de tête, j'lui ai filé mon futal. J'étais à la fraîche, je me faisais zizir, je buvais ma Rubik's dans le RER. Les lascars ont surgi dans le wagon, ils étaient 15, c'était pas bon. Puis le plus stockma s'approche de moi, combat de regard, je le sentais pas. Matt le Kidam, il a les Air Max à Jordan. Alors blanc bec, t'aimes le basket? Bah on va wesh à ma façon, je vais juste un peu changer les règles. On est les joueurs, toi t'es le ballon, file-nous tes pompes, enculé de ta mère. Moi je lui ai dit, lâche l'affaire. M'ont mis deux, trois queues là, j'ai fait, ah ouais les mecs, t'ont sorti un pushka, j'ai filé mes baskets. La morale de cette pauvre histoire, c'est que quand t'es tranquille et peinard, il faut mieux rester dans les bars, surtout quand tu commences à boire. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil en chaussettes, faut avoir l'imagination pour inventer un bon remake.
CFM à Villefranche. 90.2. 90.2.
On ne finit pas les phrases, hein.
Jeudi, et je disais hier aussi, dans le mag, on entendait ceci.
Le Villefranchois, l'info du Quercy et du Rouergue.
L'info de la semaine, info économique, je crois.
Tout à fait, puisqu'il s'agit de la présentation de la nouvelle usine qui est en cours de construction désormais, puisque les travaux de terrassement ont débuté à la Glèbe. Il s'agit de l'entreprise Patin Bakery, qui est une entreprise d'origine belge, mais qui est plus connue à Villefranche sous son ancien nom, enfin sous le nom de l'ancienne structure qui appartenait aux frères De La Ballina, puisque c'était De La Ballina Industries, une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de machines-outils destinées au secteur de la boulangerie industrielle, hein, notamment des machines qui comptent les chocolatines, les baguettes, les croissants sur les chaînes de fabrication. Et aujourd'hui, cette entreprise est le leader mondial donc de son secteur. L'entreprise a été rachetée au tournant des années 2010 par Patin Bakery, donc qui était son concurrent direct, un concurrent d'origine belge, hein, qui avait un petit peu le même parcours de l'émergence du groupe, hein, puisque c'était une société familiale là aussi fondée par les parents, qui a prospéré et qui s'est spécialisée donc dans ce domaine d'activité, et les deux ont fusionné et aujourd'hui donc ça a donné naissance au leader mondial de la catégorie. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement par rapport à cette entreprise, c'est qu'elle est en pleine expansion. Hein, son chiffre d'affaires a été multiplié par 3 à l'espace de quelques années. Et pour faire face à l'augmentation de la production, il faut une nouvelle usine. Et c'est donc une usine à 4,5 millions d'euros qui est en cours de construction et qui va être livrée pour la fin de l'année 2018 et un déménagement envisagé en 2019. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Patin Bakery est installée à la zone de Marcouly à Malleville et que donc elle viendra s'installer à la Glèbe dans une usine flambant neuf, une usine de 6 978 mètres carrés, ce qui représente à peu près un doublement de surface par rapport à l'usine existante. Et il faut saluer cet investissement parce que c'est aussi le choix de l'Aveyron, hein, qui est fait par l'entreprise, hein, qui a donc décidé de rester chez nous et c'est tant mieux pour le secteur de l'emploi. Aujourd'hui, Patin Bakery est donc un acteur important en termes de dynamisation et d'économie sur le secteur du Grand Villefranche.
En nombre de salariés, ça représente...
On va passer à 100. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, on est un peu moins de 100. Ça va passer à 100 très rapidement. Et puis, il n'est pas interdit d'envisager encore une progression assez sensible de l'embauche si l'activité se poursuit.
Allez, reportage CFM consacré aux commerçants et artisans adhérents à l'association Commerce en Bastide. Un reportage qui nous emmène aujourd'hui aux 5 rues de la Poste, l'enseigne Floramidouze, en compagnie d'Anne Loupias. Anne Loupias, bonjour.
Bonjour. Je suis fleuriste depuis bientôt 25 ans, puisque je vais fêter mon anniversaire le 2 novembre cette année. Et j'ai délocalisé mon magasin qui était 35 rue Marcelin Fabre dans mon ancien garage au 5 rue de la Poste, qui se situe entre la rue Marcelin Fabre et la place des Pères. Mes fleurs sont dehors, donc visibles de la clientèle, avec deux panneaux de chaque côté des rues. Et après, les clients peuvent venir choisir des plantes d'extérieur, des plantes d'intérieur, vertes ou fleuries. Après, il y a des fleurs coupées, bien entendu, et je peux vous réaliser des bouquets, des compositions, ce que vous voulez, en fonction de vos choix, de vos envies et de votre prix aussi, qui est important.
Alors, ça n'engage que moi, mais décorantes. Moi, c'est vraiment mon univers. Il y en a partout, du sol au plafond. Il y en a vraiment tout le tour.
Ah, c'est bien, hein, parce que des fois, on nous dit qu'on n'en a pas assez.
Ah oui.
Donc, moi, je ne peux pas étendre plus les murs, évidemment. Il n'y a que 30 mètres carrés, mais bon, je pense que j'ai une certaine gamme. J'essaye de prendre des fleurs de saison qui tiennent mieux, parce que si on prend des fleurs trop hors saison, elles ont du mal à s'acclimater ou à les conserver, surtout. Et après...
Un petit mot sur votre parcours, il y a 25 ans, comment a débuté cette aventure autour de la fleur ?
Eh bien, c'est une amie qui m'a parlé qu'un magasin de fleurs était à vendre. Et moi, au début, j'étais pas très chaude puisque j'étais employée municipale à cette époque-là au service jardin. Et elle m'en a parlé plusieurs fois. J'ai rencontré les gens qui avaient toutes les deux dames, elles avaient 65 ans. Donc, elles voulaient prendre la retraite. Et j'ai été voir le banquier, on a monté avec le notaire, on a fait une étude de marché, on a monté après un plan de financement, et tout a été accepté, et c'est comme ça que je me suis lancée.
Vous étiez floricultrice.
De métier, voilà, je suis floricultrice, c'est-à-dire que j'ai fait des études dans des lycées agricoles qui apprennent à produire les fleurs et les plantes, mais sur, plutôt d'appartements et d'extérieur, mais pas les plantes comme les arbres et tout ça, c'est encore un autre métier.
Ah, c'est la fin.
Pas de fin, pas de commencement. Ni commencement, ni fin, et c'est parce que je voulais pas qu'il y ait de fin.